bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Merci Pierre-Antoine Lefort, on vous retrouve à midi pour d'autres infos. La bande originale avec Leïla Kadour-Boudadi, Daniel Morin. Ça va Daniel? Ah, je ne vous l'ai pas entendu, c'est pour ça.
C'est parce que vous êtes là,
super. Tom Villa.
Bonjour.
Alexis Rossignol. Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Et notre invité, Riyad Satou.
Oh là là.
Je vais tenter pas sur eux, évidemment, Tanguy qui sera là tout à l'heure. Bonjour, Riyad.
Bonjour, Nagui.
Merci de. Ah, arrêtez avec cette voix,
écoutez. Ouais, j'ai rien à dire.
Bonjour, Nagui.
Ah ben, mon vélo.
Riyad Satou, de retour avec les cahiers d'Esther, l'histoire de mes 13 ans.
Monsieur le Président.
Monsieur ah oui, président, président du jury France Inter.
Le prix du livre Inter.
C'est vrai. Donc direct, tu veux qu'on parle d'autre chose alors.
Non,
j'étais parti sur les cahiers d'Esther.
C'est son titre honorifique, tout d'un coup, il est là encore mais, tout auréolé.
Combien de temps, oui.
On l'est pour l'année.
Pour la vie.
Pour l'année.
Les cahiers d'Esther, histoire de mes 13 ans, c'est le quatrième
oui,
volume, avec cette promesse faite quand même d'aller jusqu'aux 18 ans de cette petite fille.
Tout à fait, exactement. Les cahiers d'Esther, c'est fait d'après les vraies histoires d'une vraie jeune fille. Donc j'espère que je vais réussir à la suivre jusqu'à ses 18 ans.
52
planches.
Au bout
d'un moment, c'est plus légal.
Hein. 52 planches publiées dans les 52 numéros de l'Obs. Un peu à la place d'Agrippine, hein. Vous êtes le digne héritier de Bretéché.
C'est difficile comme question.
C'est quand même un peu comme
disons
ça.
Disons que je suis publié dans le même magazine que celui où était publié Bretéché.
Oui, le même
voilà,
support.
C'est le même support, voilà. Mais c'est vrai que c'est... Bretéché, elle inventait un petit peu ses histoires sur les jeunes. Moi, j'essaie de rester proche de cette vraie jeune fille.
Justement, quelle est la proportion entre la réalité de ce que vous raconte cette petite fille qui existe réellement, mais qui ne s'appelle pas Esther, et ce que cela donne en termes de vannes?
Disons que quand elle me raconte des histoires, c'est parfois pas forcément drôle. Mais le fait de la voir me les raconter, la façon dont elle les raconte, moi je trouve ça drôle en fait. Et c'est ça que j'essaye de
vous
mettre en forme.
En fait.
C'est pas de la moquerie, parce que c'est plus... Par exemple, elle a rêvé du président Macron.
Oui.
À un moment. Donc elle me dit...
Elle le trouve même beau.
Voilà, elle le trouve assez beau. Elle me dit, ouais, j'ai rêvé en fait que Macron était dans mon salon. Et en fait, il me dit, j'ai rendez-vous avec le président Pitoun, faut que je lui dise...
Et là, tout ça, c'est dans la bande dessinée.
Oui, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est comme ça qu'elle me le raconte.
Vraiment.
Je croyais que
c'était vous qui avez rajouté le Pitoun pour vous moquer du Pitoun.
Mais non, pas du tout.
Ça ne s'invente pas, Pitoun.
Non, ça ne s'invente pas. Mais en fait, quand elle me le raconte comme ça, pour elle, c'est pas drôle. Parce que...
Non. Pitoun, déjà, c'est drôle.
Elle
est sincère en disant Pitoun comme non, d'accord, ok.
Non, voilà, et donc après elle me dit, ouais, là je dis au président, mais il est en train de se planter ou quoi? Parce que c'est Poutine, c'est pas Pitoun, quoi. Alors je dis, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, et alors là, je lui dis, monsieur le président, en fait c'est Poutine, c'est pas Pitoun. Et là Macron il fait, non, putain, j'allais me planter là. Elle me raconte ça comme ça.
J'allais faire la guerre. Quelle est votre dose, vous alors? Quel est votre rapport de vanne? Puisque tout ce que vous racontez, c'est ce qui est dans la bande dessinée.
Je condense en fait. Disons que je condense les histoires et j'en trouve à chaque fois une petite chute.
Est-ce que vous rajoutez quand même votre sens de l'humour parce que finalement l'adolescence, c'est le point commun qu'il y a entre l'arabe du futur et Esther, c'est quand même votre sujet de prédilection.
J'adore ça, oui, c'est vrai. Alors dans le cas des cahiers d'Esther, je change beaucoup de choses, déjà parce que je veux la rendre anonyme. Donc je change son nom, les têtes des bonhommes, les lieux, etc. Parce que je veux pas qu'on la reconnaisse dans la vraie vie. Donc forcément, ça me permet des fois
de faire fonctionne
des,
extrêmement bien, puisqu'on lui offre les cahiers d'Esther à son anniversaire.
Ah ouais, ça c'est vrai que quand on a commencé à
ça, c'est le must.
Quand on a commencé à faire les cahiers d'Esther, elle s'en fichait complètement de ce projet. Et en fait, elle se rend compte que ça a eu de plus en plus de succès au fur et à mesure des années. Et maintenant, elle m'a dit, mais c'est
hallucinant.
Il va y avoir du pognon. Il nous l'a déjà expliqué. C'était mis de côté pour la petite. Ouais.
Et là, elle a halluciné parce que dans son collège, dans son CDI, il y a les cahiers d'Esther en coup de cœur. Et en fait, pendant qu'elle travaille, elle voit des troisièmes en train de faire « Vas-y, regarde ça, c'est moi, ça regarde !» Et elle ose même pas leur parler dans la vraie vie, donc c'est assez rigolo, quoi. Faut pas qu'elle craque.
Oui, c'est ça. Ça tient à quoi, le fait qu'elle ne dise pas « c'est moi »
Non, mais
parce que c'est trop.
Elle l'a dit à des copines, ouais.
Elle l'a dit à des
copines. Elle l'a dit à des
copines. C'est trop lourd à porter.
C'est comme Batman, on la croit pas, en fait.
C'est ça, la copine ne croit pas. Ouais, c'est ça.
On va continuer de parler de ces cahiers d'Esther qui sont extrêmement drôles et totalement dans l'air du temps. C'est totalement imprégné. Il y a des planches sur Balance ton port, on l'a dit sur la politique, on l'a dit sur Poutine aussi, sur le football, sur la musique. public. Également, c'est toujours une réussite et un bonheur.
Question du genre.
Que de, ouais, exactement. Des règles aussi. De
l'appareil. Du portable aussi.
De l'appareil dentaire, du portable. On va pas toutes les faire.
Et les papas.
Allons-y. Question sur Yad Satoufi. On a encore des questions à se poser. Je crois que c'est quand même l'invité qui est venu le plus souvent dans l'émission.
Ah bon?
Ah ouais, ah ouais. Je crois. Il est pas loin du record.
J'ai l'impression qu'il habite à France Inter. Là.
Dans ses prochaines, dans ses prochaines résolutions, Riyad aimerait bien se remettre à quoi?
Au sport. Yoga.
Non. C'est une activité.
À la musique.
Non.
À la danse.
Non.
C'est un sport précis.
C'est pas un sport.
C'est,
non,
pas un sport.
C'est une activité, culturelle. Intellectuelle.
Ouais, ouais.
Au théâtre.
À la peinture.
Non.
Au Scrabble. À la sculpture.
Non.
À culturel.
La
littérature.
Est-ce que c'est un jeu qu'on pratique à plusieurs?
C'est pas un jeu?
La littérature.
Pas un jeu. Non, d'accord, okay.
Pas un jeu.
La littérature.
Au dessin.
La poésie.
Non, non, c'est comme retourner à l'école, mais pour apprendre quoi?
La géographie.
Non.
À la fac.
L'orthographe.
Non.
Passer un diplôme.
Faire des études. Reprendre un cycle d'études supérieures de philo, de sciences humaines, de sociaux.
Non.
De sciences?
Non.
De pharmacie?
Non. Histoire de l'art? Histoire de l'art?
Non.
De
médecine, non. Mais non.
Bah de dessin? Dentaire?
Mais non, mais Riyad Satouf.
D'art appliqué.
Mais non.
Coiffure?
Des bananes?
Non. De
d'arabe. D'arabe.
Oui, qui a dit ça?
C'est Laurent.
Ça vient de
c'est Alexis.
C'est Laurent. Je suis fatigué. C'est Laurent. On l'a bien intégré à l'équipe.
On est au mois de juin, le mec.
Il est en août dernier.
C'est hyper gênant.
Fred.
Merci François Sigrist. Alors.
On va t'appeler Nicolas.
Mais sérieusement, Nagui, tu peux le sortir 10 minutes.
Ah ouais.
Tu peux le sortir 10 minutes. Tu fais le poirier, tu fais un truc.
ATR.
Mais ça te va bien, Laurent, en même temps. Laurent, c'était très joli aussi.
Pardon, Riyad, excusez-nous.
C'est tellement drôle.
Qui est Riyad?
Donc, vous voulez vous remettre à l'arabe, mais c'est extrêmement dur.
Oui, j'aimerais bien.
Vous avez des bases.
Non, mais je sais le prononcer, mais je n'ai aucun vocabulaire, en fait. Il faudrait que j'ai un vrai prof qui me... C'est une très belle langue, l'arabe. Je vous encourage à essayer de...
Non, mais moi, j'avais essayé quand j'avais 15 ans. C'est impossible. C'est trop dur.
C'est extrêmement dur.
En même temps, t'es pas très malin non plus.
Non, c'est vrai. J'étais pas sur de bonnes bases. Ouais, et puis avec un père égyptien, c'était pas facile.
Hyper dur.
Je trouvais ça très très dur.
Oui, c'est vrai que c'est compliqué. En fait,
quand on part de zéro, vous avez quand même des bases au moins à l'oral.
Oui, mais alors c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux d'arabe. En fait, déjà il y a l'arabe parlé, il y a des dialectes, et puis il y a l'arabe littéraire. Ouais. Enfin voilà, qui est très compliqué l'arabe littéraire.
Ah moi c'est l'arabe littéraire.
Ah ouais, non, non, moi je parle de l'arabe pour parler dans la rue.
D'accord. Oui. Une série à laquelle, dans laquelle, pardon, il rêverait de jouer.
Le bureau des légendes.
Oui.
Je sais.
Et pourquoi?
Je sais pas, j'adore cette série, notamment, j'aimerais bien être un agent secret syrien.
Ça serait quoi votre pseudo alors?
Mais alors est-ce que j'aurais un pseudo? Bah, je sais pas.
Enfin, on vous donnerait un pseudo, mais vous le saurez.
Agent secret.
Laurent, ça passe partout. Hein.
On l'appellerait Esther
dans l'émission.
Mais si ça se trouve, vous êtes déjà un agent secret, vous jouez un double jeu comme ça. J'aimerais bien.
Ouais. Vous avez déjà joué?
J'ai déjà joué dans plusieurs films, des mini-rôles, des tout petits rôles un peu gag.
Pas dans vos films?
Si, je me donnais à chaque fois des rôles. Je me donnais les rôles.
Vous avez fait des caméos.
Ah, vous êtes le Stanley de vos films.
Je me donnais des rôles avec une de mes actrices préférées qui s'appelle Valeria Golino.
Ouais.
Et j'ai fait deux films, j'ai fait Les Gosses et Jackie.
Sorte de fantasme.
Ouais. Oui, voilà. Et à chaque fois, j'étais son amoureux en plus.
Ah, tu vois,
tiens.
Je vais
me
servir. C'est pour ça qu'il fait des films, le mec.
Hashtag balance ton porc immédiatement. Quel est le plat d'enfance de Riyad Satouf?
Tchouchouka, le couscous.
Non, ça doit être un truc breton peut-être.
Ah, le kouign-amann.
Non.
Un plat d'enfant.
Tu vas tchouchouka ou kouign-amann.
Ouais, bah ouais,
est-ce que c'est un plat oriental ou plutôt breton? Ou ni l'un ni l'autre?
Il va pas te le dire.
On en mange aussi bien.
La bague ici.
Oui.
C'est un dessert?
Non.
Non.
Du pain?
C'est salé. Non.
Des trucs aux feuilles de vigne.
Salé. Les lentilles.
Trucs aux feuilles de vigne.
Non, mais c'est grec ça. C'est pas.
C'est l'un des plats les plus célèbres du monde.
Ouais.
Le burger.
Pizza.
La choucroute.
Non.
Bah, c'est pas
les plats bretons les plus.
Arrête.
Ah, la potée.
Riyad, arrête.
Le vomi.
C'est
les crêpes.
Pardon.
C'est les crêpes.
Non.
Non.
Qu'est-ce qu'on mange en Bretagne?
Non.
Ah, la galette.
Mais on en mange en Syrie aussi. Il n'y a pas qu'en Bretagne.
Bah, je sais pas. Le riz, les pâtes. Enfin,
je sais pas. Là, j'imagine qu'il y a des auditeurs bretons.
Ah, c'est du chou farci. Et c'est sa madeleine. Non, c'est son souvenir d'enfance. C'est son plat qui est pour lui référent pour son enfance.
Et c'est breton.
Non, j'ai jamais dit que c'était breton.
Ah, tu l'as dit, c'était breton.
Non.
Qui a dit ça?
Non, c'est pas, on cherche pas la même solution là.
C'est Laurent.
Non. On en mange aussi bien en Bretagne qu'en Syrie, qu'à Paris, qu'à Lille, qu'à Marseille.
Le sandwich.
C'est un truc simple, la purée, du poulet, des frites.
New York, Tokyo, les frites. Lesquelles?
Les frites. Les frites.
Potatoes.
Non.
Les frites maison.
Non.
Les frites industrielles.
Les frites surgelées.
Les frites de chez. Les frites de chez.
McDo.
McDo, Quick, je sais pas.
Ouais. Les frites McDo, c'est ça votre madeleine d'enfance? Vous n'avez pas honte?
Bah non.
Possiblement non.
Non, pas tellement. Il y a beaucoup d'enfants qui ont ça comme madeleine, je pense.
Ouais. Et puis il y a Pierre.
Oui, c'est bon quand il y a le petit goût salé au début qui disparaît très très vite.
C'est super bon.
Et que ça n'a plus jamais.
Et vous les préférez quand elles sont un tout petit peu cramées?
J'aime bien qu'il y ait un petit bout marron dessus.
Ouais. Non, le petit bout marron.
Non.
C'est soit la potétose, soit c'est bien cuit. S'il vous plaît, quel film a vu Riyad avec sa maman alors qu'il n'avait pas le droit, il n'avait pas l'âge?
Massacre
à la tronçonneuse.
Non. Alien.
Ah, vous prenez vraiment sa mère pour une.
Les vacances de Nagui.
Il y avait pas.
Ça, c'est Clemens.
De Monsieur Nagui.
Ah, Monsieur.
C'est un film qui fait peur. Clemens.
Les dents de la mer.
C'est pas un film. Je ne trouve pas, moi, qui fasse vraiment peur. Je savais même pas qu'il y
avait. Ah, le bal des vampires.
Non.
C'est quoi? C'est un film de. D'un grand réalisateur connu? Un Kubrick? Un truc fou?
Ouais, c'est un film connu, oui. C'est carrément.
Star Wars, un truc comme ça.
Un truc dans le genre futuriste, oui.
Alien.
Blade Runner?
Non.
Mad Max
avec sa maman.
Alors pas loin. Y a,
X-Men.
Il y a une notion un peu de justicier.
Matrix. Ah, la soupe aux choux.
Non.
Non.
De justicier
dans le futur.
C'est Verhoeven.
Ah bah c'est Total Recall.
Joli. Verhoeven tout de suite.
Il fallait que tu trouves. Il fallait que ce soit toi.
Ah oui.
T'aurais une frustration.
Là je serais rentré chez moi. Déjà sur le Laurent, je suis pas bien donc.
J'ai même pas que c'était interdit aux enfants.
Ah si si.
Ah si, c'est une violence extrême. Le premier. Incroyable, il y a des mecs qui se font déchiqueter, ils se font tirer dans la. Toutes les idées sont ultra perverses et violentes.
D'accord. La scène, l'exécution du policier, elle est d'une violence incroyable, même aux critères d'aujourd'hui. Hein.
Je me souvenais même pas.
Même en Corée du Nord, ils font pas ça.
Et quelle est la raison pour laquelle maman n'a pas.
Je sais pas, non. Je lui ai dit que j'avais envie de voir ce film. Elle m'a dit d'accord, on est allé le voir.
Arrêtez de vous moquer de votre maman avec cette voix.
Et la femme à la caisse, ma mère lui a demandé, elle me dit c'est pas trop violent. Puis la fille a dit. Comme il est mort, mais vous pouvez.
C'est ça.
Ça va.
Donc elle a fait la même erreur que moi. Ça passe.
Vu ce qu'on voit à la télé.
On était dans les années 80, quoi.
Donc non, c'était vraiment. Parce qu'en plus, Paul Verhoeven, il avait une façon particulière de filmer, c'est que pour pas être censuré par les studios, il filmait les scènes quatre fois plus violentes qu'il les voulait vraiment dans ses films. Comme ça, les mecs des studios, il avait la bonne dose. Mais des fois, les types lui disaient, ça va. Et donc, tout était quatre fois plus violent qu'il en fallait.
Ouais. Que faisait Riyad Sattouf dans le bus en allant à l'école, systématiquement?
Dormait.
Il faisait ses devoirs.
Dessiner. Exactement. Mmh. Il finissait ses devoirs, pour être précis.
Oh, ça, c'est un classique. Ouais. Nombre d'enfants qui font ça dans les bus.
Il y en a qui fument.
Ouais. Bah.
Toi, tu finissais tes devoirs?
Je finis ma chronique dans le taxi quand j'arrive.
Tu finissais jamais tes devoirs. Mais pourtant, vous étiez bon élève, mais vous procrastiniez.
Oui, j'étais bon élève au début, mais sur la fin, là, vers le lycée, ça n'allait plus tellement quand même.
Vous avez décroché?
Ouais, complètement.
Que lui a dit un jour, je ne sais pas si c'était dans le bus, une dame de 84 ans à propos de l'arabe du futur, qui est sans doute le plus beau compliment qu'on ait pu lui dire.
J'adore ton livre.
Oui, mais...
Ça m'a rappelé ma jeunesse.
Non.
Embrasse-moi sur la bouche.
Il y a un rapport avec la jeunesse, en tout cas.
Il y a un rapport avec sa mère?
Non.
Avec l'amour?
Non.
J'aurais aimé être jeune, comme dans ton livre.
Je serais tombée amoureuse de l'arabe du futur s'il était là.
Ça m'a fait revivre. Je suis heureuse d'avoir lu ça avant de mourir. Un truc comme ça.
Alors, c'est pas loin, mais c'est comme si la boucle était bouclée.
Maintenant, je peux mourir.
Il y a une boucle.
Maintenant, je peux mourir tranquille.
Non.
On peut mourir 1000 fois.
Non, mais arrêtez de la faire mourir, elle a 84 ans, ça va, elle peut encore vivre 16 ans, au moins.
Dites pas n'importe quoi non plus, Nagui. 6 mois max.
C'est pas Michel Drucker.
Ah oui, toi, t'as décidé, toi. Alors.
Tu veux tuer ton patron, toi.
Donc, elle a dit. J'ai
l'air d'avoir des petits-enfants aujourd'hui.
J'adore l'arabe du futur, et figurez-vous.
Ça valait le coup d'apprendre à lire pour ça.
Non.
C'est ma première BD.
pas loin.
C'est la, la
c'est
plus
ma dernière,
belle BD de
c'est
moi.
Ma dernière.
Mais je ne sais pas lire.
C'est le plus bel album que j'ai jamais lu. Voilà, c'est la BD de. Voilà, c'est une
j'avais
super
pas
BD.
Lu depuis Tintin.
Ah, la seule BD que j'ai lu de ma vie.
Alors, je vais prendre Alexis. Le Rossignol, c'est la première BD que je lis depuis Bécassine.
Ouais, c'est vrai.
C'est fou ça.
Ça c'est mes.
C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais de parenthèse. C'est-à-dire qu'elle avait lu une bande dessinée enfant, plus du tout. Et elle s'est remise à lire à 80 ans.
Oui, ça me fait très plaisir. C'est vrai que
Ah oui, ah carrément.
Ça va, Laurent.
Ça s'appelle un fauteuil qui se casse et surtout Alexis qui
se casse.
C'est Laurent, c'est Alexis.
Non, mais il faut expliquer ce qui s'est passé. Donc.
Attends, est-ce qu'on peut prendre des nouvelles du mort? Comment ça va?
Je me suis même pas appuyé.
C'est un truc fou.
Bah, tu vois, Alexis, finalement, tu as réussi à faire rire les gens.
C'est les vieilles chaises de France Bleu qui nous ont fourgué, les salauds.
Donc, Alexis, c'est non, je tiens à témoigner. Je tiens à témoigner. Alexis, c'est quand même délicatement appuyé sur le dossier qui s'est
lâché.
Ouais, qui a lâché. Il y a pas de terme.
Cédé.
Qui s'est effacé.
Accident de tournage.
Et donc, il est tombé à la renverse. Les quatre fers en l'air. Allez, tout va bien.
Alex. Un accident de travail.
Tout va bien. Un accident de travail. Tu saignes des oreilles là.
Ah, j'ai plus
les coups de bois. C'est la seule réflexion qui.
Bon, cet incident étant passé, et qu'est-ce qui, à votre avis, a poussé cette dame à replonger dans l'arabe du futur 80 ans après?
C'est difficile à dire, mais je sais que quand je fais mes bandes dessinées, que ce soit Esther ou l'arabe du futur, j'essaie toujours de le destiner à des gens qui ne lisent pas de bandes dessinées. Que ce soit expressif, facile à lire, bien dense. Vous êtes génial, c'est des gens de la vraie vie en fait.
Alors justement, pour revenir à ces cahiers d'Esther, j'aimerais parler du graphisme, avant de la forme avant de parler du fond. Parce que d'abord, je trouve ça extrêmement bien dessiné et je voudrais comprendre, connaître vos codes couleurs. Parce qu'il y a peu de couleurs, mais elles sont présentes et elles sont presque unies sur certaines planches.
Oui, je me mets des contraintes de couleurs en fait. Pour chaque page, je m'autorise deux couleurs avec lesquelles je dois tout raconter.
Voilà. Donc vous pouvez jouer par exemple, le flashback sera d'une couleur, oui. La réalité d'une autre.
Oui, c'est pour faciliter la lecture et puis aussi parce que...
Ou l'humeur aussi.
Et comme en fait c'est une multiplicité d'histoires qui sont sur tous les sujets, ça peut être la vie culturelle d'Esther, ça peut être ses amis, sa famille. J'aime bien que ce soit pastel, comme ça, avec plein de couleurs différentes, parce que les couleurs ont un sens, à chaque fois c'est des couleurs des émotions. Donc à chaque fois, je les varie justement pour rester. Alors que dans l'arabe du futur, je les varie pas. Les couleurs sont bien définies pour chaque pays. Mais à chaque fois, voilà, je veux pas que les couleurs soient uniquement
pour
colorier.
Alors le code couleur de l'arabe du futur, c'est en fonction de l'endroit où ça se passe, il y a une couleur.
Ouais.
Et puis alors dans les cahiers d'essai, on est plus dans le pastel parce que fille, c'est quoi?
Pas forcément, parce qu'aussi c'est il y a une multiplicité d'émotions et de sentiments différents. Voilà, des fois elle est en colère, des fois elle est contente, des fois elle est. Donc voilà, je trouve ça agréable d'avoir plein de couleurs différentes tout le temps.
Et puis il y a le trait, il y a le dessin, qui est absolument formidable. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à dessiner, ou est-ce que vous êtes un dessinateur capable de tout dessiner?
Alors oui, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup de mal à dessiner. Enfin, c'est sur des choses que j'aime beaucoup moins dessiner. Il y a un truc qui est horrible pour moi à dessiner, c'est les gens autour d'une table. Voilà, des types qui mangent à table. Ça, c'est horriblement difficile.
Pourquoi? Parce qu'ils sont assis.
En fait, il y a toute une géographie à faire avec la perspective de la table, les assiettes, les verres, les couverts. Alors quand vous changez, ce qui est assez marrant, c'est que de dessiner des gens autour d'une table, c'est aussi dur que de les filmer dans un film autour d'une table. Mm-hmm. J'avais horreur des scènes.
Un problème d'axe, en fait.
Oui, je sais pas. Ouais. C'est difficile de bien faire sentir que les gens sont regroupés autour d'un espace commun comme ça.
Pourtant, il y a des scènes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Si vous interdisez pas d'en avoir une bonne vingtaine dans un petit carré. Hein.
Non. Mais c'est vrai que c'est pas parce que j'ai du mal à dessiner certains trucs que je vais pas le faire. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs très compliqués. Ce qui est plus simple, c'est les
transports en commun.
Non, ça aussi c'est compliqué, le métro.
Bah, pourtant, il y en a. le cancre dans le bus, là, vous dessinez tout le bus.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, j'ai un style de dessin assez simple et que j'essaie de rendre le plus clair possible. Mais alors, parfois, pour suggérer le métro, il y a quand même des détails à respecter. Les portes sont d'une certaine façon, surtout quand ils changent les modèles de métro d'une époque à une autre.
C'est clair. Ouais.
Voilà, donc faut bien.
Et les muscles, vous aimez aussi? Alors, d'un coup, là, j'ai découvert que ce soit les abdos,
brutal.
C'est votre truc, les muscles.
Bon, j'adore les gens musclés. Ouais. Les la muscu, tout ça.
Les biceps, les pectoraux, les abdos. Et alors, pour en revenir donc au cahier d'Esther, le mystère du garçon qui fait pipi.
Oui, parce qu'en fait, souvent,
ça, c'est
quand,
Walter.
Quand je demande à Esther ce qu'elle a fait cette semaine...
C'est une vanne de l'appeler Walter, pardon ?
Non, c'était elle. Je lui ai demandé que si t'étais un garçon, t'aimerais t'appeler comment ? Elle m'a dit Walter.
D'accord. Non, non, mais je pensais au water, la vanne du pipi. D'accord, ok, on oublie.
Et donc, je lui ai demandé, mais que ferais-tu si t'étais un garçon ? Donc, elle m'a fait toute une liste des trucs qu'elle adorerait faire.
Pipi debout.
Et notamment pipi debout, ça m'a étonné, je pensais pas.
Non, tout est fille. Attention, pas n'importe quel pipi debout, avec des figures aussi.
Oui, de bouger partout, de faire des gags.
Non, 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 il fait l'hélicoptère. Enfin,
il fait
par exemple, là, c'est peut-être moi qui l'ai raconté, le côté hélicoptère. C'est moi qui l'ai rajouté.
D'accord, il y a.
C'est vrai qu'il y a un côté Versailles.
Il y a un petit côté Versailles.
Il y a un côté Versailles.
Il y a un côté festif. Il y a un côté Versailles.
Vous en bourgeoisez quand même.
Et alors les sujets donc abordés là, on colle à l'actualité. Est-ce que Balance ton porc, c'est elle qui en a parlé la première, ou est-ce que c'était dans l'actualité et vous lui avez posé des questions ?
Non, c'est moi qui lui en ai parlé, parce qu'en fait elle en avait pas entendu parler, j'avoue. Même dans son collège, ses copines n'en parlaient pas.
Donc toute la planche qui va avec, c'est-à-dire la manière dont elle se maquille, s'habille, la queue de cheval, la jupe, la mini-jupe, c'est vous qui l'avez inventé ?
En fait, j'ai lancé la discussion, je lui ai dit « Est-ce que tu as entendu parler de Balance ton porc, par exemple ?» Alors elle a commencé à me dire « Ah, c'est le truc avec les femmes qui veulent interdire de fumer. » Je ne sais pas pourquoi elle avait compris ça.
Pour fumer,
ça.
Oui.
Après, je lui ai dit « Mais non, tu sais, c'est le grand mouvement des filles qui racontent leur... » Puis elle m'a dit « Ah ouais !» Puis là, elle s'est mise à me parler de ce qui lui arrivait... Ouais. Dans son école et du sexisme qu'elle peut vivre tout le temps dans son collège. Mais c'est comme ça que les discussions avancent.
Y compris pour une gamine de 13 ans qui se balade dans la rue et qui se fait siffler par.
C'est incroyable. Elle me raconte. C'est-à-dire que je pourrais raconter des histoires comme ça, je pourrais en raconter toutes les semaines. C'est-à-dire que je suis obligé de choisir. Parce que pour elle, c'est naturel de marcher dans la rue et d'être embêtée par les garçons.
Ah ouais. Et des hommes, même.
Oui, je dis les garçons, mais des hommes.
Alors, elle a des problèmes avec les garçons ou les hommes qui la sifflent dans la rue et avec une vulgarité infernale. Elle a des problèmes aussi avec des filles qui aiment les filles.
Avec une fille qui est dans sa classe, oui.
En tout cas, elle a pas de problème, mais la lesbienne en question tombe dans une paranoïa et la dénonce à des copines lesbiennes. Et alors qu'elle n'a strictement rien contre elle, si ce n'est qu'elle a pas envie d'être qu'elle lui colle ou qu'elle la serre de trop près.
C'est vrai qu'elle m'a raconté, ça. Moi, je trouvais que ça ressemblait presque à une forme de harcèlement, parce qu'elle a une copine qui, à chaque fois, lui saute dessus et l'agrippe en lui faisant des bisous. Et en fait, elle la
sans qu'elle le veuille.
Ouais, elle la tripote, elle lui saute dessus. Et un jour, elle l'a poussée en lui disant, vas-y, lâche-moi! Je suis pas lesbienne et tout, lâche-moi! Et donc, l'autre l'a mal pris, a été le dire à des lycéennes.
Elle est homophobe.
Et les lycéennes sont venues dire à Esther, toi l'homophobe, fais gaffe, on t'a à l'œil et tout. Alors maintenant, quand elle va dans la cour, elle a ces grandes filles qui la regarde tout le temps comme ça avec un air hyper méchant et elle est terrorisée par ses filles.
C'est le monde à l'envers quand même.
Ouais.
Et ce qui est formidable, c'est qu'on a le sentiment de mieux connaître, de découvrir l'adolescence, le monde d'aujourd'hui, mais par le prisme d'une adolescente.
Ce qu'elle pense, en tout cas, en l'occurrence, là, c'est une jeune fille, et se dire, c'est vrai que quand on croise des adolescentes, on n'a pas forcément des grands échanges avec elles, ou en tout cas pas sur ces sujets-là, et ça, c'est de voir toute leur vie intérieure et leur petite vie aussi dans l'établissement. C'est pas perdre le contact. Moi, par exemple, je découvre des rappeurs. C'est aussi ça dans les goûts musicaux, dans les applications, quand elles se dit, ou dans les métiers qu'elle aimerait faire ou qu'elle aimerait pas faire, alors à la limite on peut s'y retrouver, mais les raisons pour lesquelles, c'est aussi convoquer toute une génération qu'on n'a pas forcément, qu'on côtoie pas forcément en fait. Même les musiciens, par exemple, vous découvrez vous aussi Riyad Sattouf, des artistes, j'imagine.
Ah oui. Puis c'est très souvent qu'elle m'a parlé d'un groupe ou d'un chanteur des semaines et des mois avant qu'il soit vraiment connu de manière très populaire.
XXXTentacion.
Et toi, Nagui, avec tes enfants, t'arrives à être largué musicalement ou pas ?
Alors oui. Oui. Alors ce qui est encore plus énervant, évidemment, c'est quand t'as des enfants qui connaissent par cœur des textes. Comme ça. Et quand tu demandes le théorème de Pythagore, on fait bah non, là je peux pas te dire.
Tu dis,
t'es quand même capable d'apprendre un truc par cœur. Donc c'est pas un problème de neurones.
Ouais, mais
c'est juste une volonté.
On l'a tous fait ça.
Oui, il faudrait que Daniel se mette à chanter le pied.
C'est ce qu'a fait Soprano.
Oui,
Soprano. Soprano a fait ça avec le théorème de Pythagore et ça a fonctionné, mais grave quoi. Un
comme quoi les gens sont vraiment cons.
Je m'en rappelle, les cafards, les bacs, les Yankees à l'appel.
En fait, vous pourriez publier une playlist d'Esther, les cahiers d'Esther. Ça commence.
PNL, c'est surtout son frère qui écoute. Elle est fascinée par ces mecs parce qu'ils ont l'air de bandits et qu'ils sont beaux, etc. C'est comme Booba. Mais elle a un peu peur quand même parce qu'elle comprend pas tout ce qu'ils disent. Puis elle sent bien qu'ils sont à la frontière de la légalité dans ce qui. Mais en même temps, elle est fascinée. Elle commence quand même vraiment à se diriger vers le rap. C'est tout nouveau.
Donc
là.
Elle est plutôt branchée à Chan.
Ah ouais, ça, elle adore. Ouais. Mais bon, c'est un des mecs les plus connus sur Terre. Hein,
ouais. Ed Sheeran, ouais, clairement. Ouais,
c'est les Bapous.
et puis, il y a aussi cette rencontre avec, c'est sa grand-mère, je crois, et Chopin.
Ah ouais. Bien sûr.
Ça aussi, c'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie, ouais, ouais. Sa grand-mère lui avait fait écouter de la musique. Elle a été très, très émue par ce personnage de Chopin.
Elle croit que Chopin est avec un homme.
Ouais, et puis en fait, elle a eu une grippe. Elle a eu une grippe pile au moment où elle a découvert Chopin, donc elle a été malade, et donc c'est
donc
comme
la fièvre lui a fait
la fièvre l'a fait délirer, etc. Mais c'est marrant de voir comment les générations peuvent se parlent en fait, alors qu'on pense que elles n'ont pas de contact, parce que finalement Esther, elle est disponible pour découvrir des trucs anciens. Elle adore Balavoine, elle adore. Ouais. Mais il suffit juste de lui proposer, quoi.
Tout en disant qu'il n'est pas du tout connu à chaque fois.
Ouais, c'est ça. Ouais. Comme vous l'avez déjà expliqué dans différentes interviews et ici à ce micro, ce sont les futurs adultes. Hein. C'est-à-dire que non, mais c'est ça.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça qui fait peur. Le seul truc qui fasse peur, c'est que oui, il y a des codes machistes qui sont encore là, très ancrés. Alors qu'on avait l'impression que ça pouvait être plus ou moins balayé ou que c'était dans notre temps.
Et c'est une adolescence dorée parce que Esther est dans un très très bon établissement. Il y a que des blancs dans la classe, elle le fait remarquer. Il y a beaucoup de fils de riches ou de filles de riches parce qu'il y a plein d'épisodes comme ça où ils n'hésitent pas à balancer les iPhones qui coûtent une fortune. Donc se dire que ces codes-là existent aussi dans ces milieux dits privilégiés, c'est pas comme si on faisait un reportage. Voilà, ça veut dire que ça touche tout le monde et que c'est pas juste des problématiques de banlieue.
Non, non,
c'est ça qui est intéressant
dans
Esther.
Problématique de génération.
Et de rapport entre les garçons et les filles qui se tissent très tôt et on sent que Esther peut être une future leader de rageuse, quoi. C'est-à-dire.
Oui, c'est vrai. Elle m'a envoyé des photos de son fil WhatsApp parce qu'elle a un fil WhatsApp avec les gens de sa classe et il y a des types qui prennent en photo leur argent de poche. Leur liasse de billets et tout. C'est bizarre quand même ça.
Non, mais c'est les codes de clip rap avec, oui, avec l'argent jeté par les fenêtres. Ouais.
En fait, ils sont complètement.
Enfin, ça avait commencé avec Mélodie en sous-sol hein, quand même. Alain Delon, oui, l'avait jeté dans la piscine. Faut pas
vous avez raison.
Les cahiers d'Esther, l'histoire de mes 13 ans, signé Riyad Satouf, c'est chez Alary Éditions et ça a été un carton et ça continue à être un carton, Tommy. Là.
C'est une question?
Non, c'est une affirmation.
Une autre, parce que sur certains invités, je veux bien, mais là, c'est Riyad Satouf, c'est pas Jade Lagardère qui sort une BD, tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire?
De pas le futur.
Vous savez ce que ça veut dire Satouf en arabe? Ça veut dire succès. Donc voilà. La dernière fois, la rate du Futur 4, il était premier des ventes, devant Éric Zemmour, ce qui fait à la fois plaisir et ce qui veut dire que, malgré tout, Éric Zemmour était deuxième. Là, c'est comme quand Macron gagne la présidentielle, faut pas oublier que c'était face à Marine, tu sens qu'il y a un petit goût de charbon sur la merguez. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là, Riyad revient avec les cahiers d'Esther. Alors, l'histoire, je la rappelle pour ceux qui donc on suit Esther dans sa vie de fillette, puis de jeune fille, année après année. Là, c'est l'année de ses 13 ans et vous faites le porte-parole de cette fille à travers elle et la jeunesse. C'est bien fait. Moi, la grande question, c'est comment vous faites pour comprendre aussi bien la jeunesse? Je te jure, j'arrive pas. Là, par exemple, j'ai eu 30 ans la semaine dernière. Pas besoin de me le souhaiter, vous êtes en retard, il n'y a pas de souci.
Mais tu les fais tellement pas.
Mais je sais, j'en fais 29. Mais j'ai du mal à suivre le rythme. Je te jure, j'ai l'impression d'être un asthmatique qui démarre un marathon et qui a paumé sa ventoline. C'est sûr qu'avant, l'écart entre les jeunes et les vieux était moins grand. Les vieux, ils devaient s'habituer à quoi? Tu sais, ils se disaient, waouh, putain, il y a un gamin qui porte un jean. Il mastique le même bonbon depuis une heure et demie. Il boit un médicament à bulle noire contre les maux de ventre, tu vois, c'est tout. C'était ça. La télé, pareil, il y avait deux chaînes, a priori, tout le monde regardait la même chose. Le soir, t'avais le journal de Zitrone, suivi d'interviews avec Zitrone. Mais là, on s'est pris une claque. Même pour vous dire à quel point les jeunes d'aujourd'hui sont vicieux, ils ressortent les trucs de notre jeunesse en oubliant complètement que c'est nous qui les avons eus en premier. Les survêtements flashy, vert, violet, jaune, champion ou fila, c'était nous.
C'est vrai qu'il y a un retour 80.
Oui. Ouais, les vinyles, c'était nous. Le Polaroid, c'était nous. La musique et les films pourris, c'était nous. Le jour où j'ai réussi à utiliser Instagram correctement, on m'a dit qu'il fallait utiliser Snapchat, les stories, les filtres, les posts, les likes. Oh, ta vie, elle est nulle. T'as pas besoin de rajouter des filtres. Ça n'a pas changé grand chose. Oh, putain, ça y est, je me dis, je suis vieux. Merde, ça. Je veux dire qu'à l'époque, si tu voulais mettre un filtre chien sur ton visage, il fallait prendre ton vélo, aller à la foire fouille, acheter un masque de chien, rentrer chez toi, mettre une pellicule dans l'appareil, te prendre en photo, apporter la pellicule à développer, récupérer ta photo, et après seulement tu pouvais avoir l'air d'un con avec ta gueule de chien. Du coup, vous savez quoi ce soir ? Dès que je rentre, je fonce au grenier chez mes parents, je ressors toutes mes merdes de quand j'étais vraiment jeune, dimanche prochain je fais une brocante, et lundi je suis riche. Bonne émission.
Merci Tom Villa, bon anniversaire !
Choukran !
La bande originale. On m'a dit que c'est le 5 juin, c'est vrai ?
Ouais ?
Non, mais...
Comme Mark Wahlberg et comme Guy Carlier, c'est bien, ça compense.
t'as repéré tes potes. Nous avons aujourd'hui Riyad Satouf avec la bande originale de cette bande dessinée des Cahiers d'Esther. Ça passe par Ed Sheeran, par Chopin, par PNL. Et alors il y a lui quand même. Ce X-Tentation. Je sais pas comment il faut dire. X-Tentation.
Ah, toi non plus. Triple X.
Ah, il faut dire Triple X. Lui c'est un personnage, hein.
Oui,
très musclé aussi.
Il est très beau, elle le trouve extrêmement beau. Mais alors il est mort, bon. Et
ça s'arrange pas.
Mais il est encore plus beau, hein, comme ça sera encore plus beau.
Et pourtant il n'est pas blond.
Non, elle n'est pas spécialement fixée. Mais c'est vrai qu'elle a eu une petite fixation quand même sur XXXTentacion parce que en fait ils auraient découvert des. En fait il a été condamné pour agression et meurtre. Et ils auraient découvert des enregistrements de lui qui avoue ses meurtres après sa mort. Et donc ça a fait un scandale, pas possible. Mais apparemment, ce serait pas si clair que ça. Bref, la noirceur de ce personnage fascinait complètement Esther, parce qu'elle le trouvait quand même beau et attirant, malgré le fait que ce soit un vrai bandit, pour le coup.
Alors, quel est des soucis avec un appareil dentaire ? Quel est un souci avec le comportement des copains à l'école ? Quel est des soucis avec le sentiment d'injustice ? On se dit finalement, on a tous connu ça de différentes manières à différents stades de notre adolescence. La drogue à 13 ans déjà.
Bah, elle prend pas de drogue, Esther.
Non, mais on lui en parle. Ah, on lui en parle.
Ouais, bien sûr. Ouais, elle m'a dit qu'il y avait des garçons dans sa classe qui sniffaient du sel.
Du
sel à la cantine. Alors c'est là où c'est quand même assez impressionnant parce que personnellement à mon époque, la cocaïne c'était dans Magnum. À la télé, c'était vraiment le truc vraiment des méchants et tout. La première drogue qu'on a pu voir au collège.
C'est pas votre truc. L'imitation, c'est pas votre truc.
Moi, j'ai trouvé ça bien, perso.
J'y étais. Pablo Escobar.
J'avais même un peu chaud.
Platin au plomo.
Mais maintenant, c'est pas une drogue qui est facilement trouvable, vraisemblablement.
Tu sais de quoi tu parles.
Des fois, comment ça se fait que la cocaïne est aussi répandue ? Est-ce qu'ils ont trouvé des moyens pour la faire rentrer dans France, par exemple, qu'on ne sait pas, genre, elle arrive par kilotonne. C'est bizarre quand même que ce soit aussi connu, en fait.
Vous faites bien l'innocent.
Je suis pas expert, mais est-ce qu'elle n'est pas plus coupée aussi qu'avant
Non, le problème est... elle est de plus en plus pure et c'est un problème.
Mais la vraie question, c'est comment y en a-t-il de plus en plus ?
Avec le réchauffement climatique, elle pousse en Bretagne.
Amazon ?
On savait pas quel était l'endroit. Ouais. Il fallait connaître quelqu'un qui machin. Ouais. Il y avait toute une des rumeurs autour de la drogue.
Bon après,
avec l'argent de poche qu'ils ont, vraisemblablement, ils sont en mesure d'en trouver à Paris. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus complètement fou.
Oui, sans doute. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir à quel point ça fait partie de leur univers mental et de leur univers de rébellion, ouais. Etc.
Et ça vous a renvoyé à vos premiers joints d'ado.
Je me rappelle si dans mon collège comment c'était extrêmement difficile de pouvoir fumer un joint. Enfin, ceux qui y arrivaient étaient vraiment les champions en toute catégorie. C'est-à-dire, c'est des mecs, ils avaient planté dans le jardin de leur mamie une graine, ils avaient de l'herbe, et alors ils la faisaient sécher. Enfin, c'était c'était un autre univers. Là, on a l'impression que ça fait partie du quotidien. Et que c'est un...
Et parmi les garçons bien, parmi les beaux gosses, alors Ryan Gosling, Justin Bieber, Paul Pogba, on se dit ok, ça c'est tout ça, c'est sa génération. Nekfeu, Kev Adams, Omar Sy, donc ce triple X Tentation et Alain Delon jeune.
Bah oui.
Mais vous avez pas vu, il a des photos de lui partout dans Paris,
pubs,
là, sur les pubs.
Elle est tombée par terre.
Oui,
mais elle est amoureuse de lui, mais.
Non mais à la limite, comme elle pourrait être amoureuse d'un mannequin d'une publicité, point. Elle sait qu'il s'appelle Alain Delon elle voit qui est Alain Delon.
Parce que
elle a jamais vu au cinéma, elle a jamais vu.
Mais je pense peut-être que c'est ses parents qui lui ont dit oui, c'est Alain Delon, et c'est vrai qu'il est ultra beau sur les photos. Il est unique quand même, ouais. Alain Delon.
Ouais. Il est unique également, c'est Alexis Le Rossignol.
Laurent.
ses propres.
Si tu avais pu dire, il lui ressemble presque à Alain Delon, j'aurais été vraiment flatté, mais.
Bon, j'aurais fait la vanne Alain Delon, mais pff, c'est fatigant cette vanne.
Alors, moi, je suis absolument fan du travail de Riyad Satouf, mais j'aime pas adopter une attitude de fan quand je suis à côté des gens que j'admire. C'est pour ça que
j'ai déjà remarqué.
Quand Philippe Découfflé est venu, je me suis tenu tranquille, quoi. Alors que j'adore la danse contemporaine. Et toutes les danses, d'ailleurs. Au Mexique, on m'appelait El Bailarín Loco. Disons que quand je me trémousse, je suis pas mal, quoi. Une fois, j'ai chopé au bal des pompiers, donc, c'est pour dire, quoi.
Un pompier.
Sachant qu'au bal des pompiers, les vedettes, c'est les pompiers, hein. Tu peux te mettre du pento dans les cheveux, ça arrange rien. Le côté héros, tout ça, il est de leur côté. Et avec Notre-Dame, il y en aura que pour eux cette année. Je sais même pas si ça vaut le coup d'y aller, tu vois. J'ai beaucoup aimé les cahiers d'Esther parce que ça m'a rappelé mes propres histoires d'enfance. Moi, j'avais deux copains avec qui on avait formé une bande de trois à la récré. Et dans la bande, on avait tous un rôle. Il y avait le costaud, le débrouillard et l'intelligent. Donc nos références dans la vraie vie, c'était Barracuda pour le costaud, MacGyver pour le débrouillard, et l'intelligent, c'était Jacques Chirac. J'ai pas d'explication à ça, mais c'était lui, voilà. Donc Jacques Chirac, c'était mon copain Benoît, parce qu'il portait des lunettes. Lui, il avait la double peine, hein, porter des lunettes et jouer Chirac à la récré. Moi, j'étais le costaud, parce que j'avais un grand-père viking.
C'est une vanne ?
Enfin, il était né en Normandie, quoi. Là où les vikings étaient venus avec leurs drakkars pour aider les Gaulois à se battre contre les Romains. Ou contre Jean-Marie Le Pen, je sais plus, parce qu'il était très méchant lui aussi. Et le débrouillard, c'était mon copain Freddy, parce qu'il avait un prénom américain, comme MacGyver. Et les deux autres rôles étaient déjà pris, donc bon. Donc on jouait à sauver le monde de situations très compliquées à l'issue incertaine, dont seule l'intelligence de Jacques Chirac, couplée à la débrouillardise de MacGyver et à la force de Barracuda, pouvait nous délivrer. Et puis un jour, il y a eu un contrôle de grammaire, et Benoît, qui jouait Jacques Chirac l'intelligent, il a eu une moins bonne note que nous, le débrouillard et le costaud. Or, il pouvait pas être plus intelligent que nous pendant la récré s'il l'était pas dans la vraie vie. Et c'est la dernière fois qu'on a joué. Ce que je vous raconte est vrai, hein, j'ai failli chialer en y repensant. Donc je me suis souvenu de tout ça en lisant les cahiers d'Esther, voilà. Et puis, je me suis rendu compte qu'encore aujourd'hui, je continue à avoir des réflexions enfantines, empreintes de naïveté et de bon sens, et ça me fait un peu plaisir. Par exemple, depuis le début du mois de juin, je sais pas comment m'habiller. Quand je dis que je sais pas comment m'habiller, je parle pas du style. Hein. Non, ça va. Je parle de quel type de vêtements porter. À cause de la météo capricieuse. Sauf que quand je regarde la météo, ça m'aide pas. Un jour, il fait froid le matin et chaud l'après-midi. Le lendemain, c'est le contraire. Quand on m'annonce 18 degrés, je sais pas quoi porter parce que 18 degrés, c'est un peu comme 18 heures. Tu sais pas si c'est déjà le soir ou encore l'après-midi. En ce moment, à 18 heures, vous dites quoi, vous? Bonjour ou bonsoir?
Bonsoir.
Tu vois, en hiver, c'est plus simple. À 18 heures, tu dis bonne nuit et ça passe. En plus, avec le vent, parfois, 18 degrés en ressenti, ça donne 6 degrés. Mercredi dernier, il y avait des rafales. Des vraies rafales, hein, pas des mirages. J'avais un cône dans la main et la glace fondait. J'ai eu du mal à le manger. Parce que j'aime pas la glace trop froide. Donc moi, je me dis, plutôt que de nous dire le temps qu'il va faire, la météo devrait plutôt nous dire quel vêtement porter. Ce serait plus simple pour tout le monde. Exemple pour demain. Eh bien, demain, samedi, il fera pantalon sur l'ensemble du pays, avec suite à capuche le matin au nord de la Loire et veste légère dans la vallée du Rhône.
Pas mal.
Petit caouet en milieu d'après-midi sur les côtes de la Manche et les régions de l'Est, puis veste légère en fin de journée sur l'ensemble du pays.
C'est un bon concept.
Dimanche, la journée s'annonce t-shirt Bermuda et lunettes de soleil pour tout le monde, hormis pour la Bretagne et la Normandie qui resteront petit caouet avec un ciel chargé. La tendance t-shirt Bermuda se confirmera la semaine prochaine pour l'ensemble du pays, à l'exception de la Bretagne et la Normandie, qui seront ciré bottes, bonnet Saint-James. Comme tous les jours, quoi. Enfin, ils s'en foutent, c'est des vikings. À noter la présence d'un bel anticyclone sur les régions sud qui profiteront d'un temps claqué de chaussettes qui devrait durer plusieurs jours. Pour finir, on jette un coup d'œil à la Bourse de Paris, en légère hausse ce matin, plus 0,4% à 5400. Ah non, ça c'est la fin du journal, désolé.
Merci Alexis Lancial.
La ville originale, Nagui. Sur France Inter.
Et tu tiens concept météo.
Hein, oui, ouais, je valide. Hein,
dépose. Ouais, très bonne idée.
À développer tous les samedis à 17h au point virgule, Alexis Le Rossignol. Et aussi au Festival d'Avignon du 5 au 14 juillet.
Tout à fait. La bande originale de Riyad Satouf et d'Esther. D'ailleurs, on va s'amuser avec elle aussi. En 96, il passe le bac en écoutant. X-Files.
En regardant.
Oui, enfin, c'est la musique là. Mais reste à côté de moi pour me corriger au fur et à mesure des sorties. Déjà, cette musique-là, la musique seule, pour rejoindre Tom, elle vous plaît?
Ah ouais, je l'avais enregistrée, je l'écoutais sur mon Walkman. Ouais, c'est vraiment le bac, ça.
Là, ça te plonge dans une ambiance directe.
C'est l'angoisse du bac. C'est le...
Ah, ça m'a fait... Pourtant, vous étiez bon élève.
Non, plus au lycée. Plus. Au lycée,
ah oui,
c'est
horrible.
Et vous n'étiez pas forcément très sympa non plus.
Non.
Non, mais c'est ça, on n'imagine pas Riyad Satouf désagréable. Et en fait, vous aviez un système de classement, de catégories.
Non, en fait, c'est pas que j'étais désagréable, c'est que c'est vrai que j'étais un peu solitaire. Et là, si j'étais solitaire, c'est qu'il y avait quand même des raisons. C'était pas uniquement les autres qui étaient pas gentils ou ce genre de choses. C'est que je savais pas comment communiquer. Moi, j'étais dessinateur, donc je restais un peu dans mon coin. Et quand on me parlait, je disais. Puis quand une fille s'approchait de moi, j'étais tellement. Mon cœur se mettait tellement à battre très vite, j'étais pas capable de lui parler en fait. Je passais pour un pervers. Enfin, j'avais l'air d'être un mec
encore,
qui vraiment.
Encore aujourd'hui, Rihanna.
Merci Nelly.
Et vous aviez des catégories chez les camarades de classe. Il y avait les dominants.
Ah oui.
Les
oui.
cons.
Non, mais c'est qu'en fait, je classais les gens. Je voyais tout de suite en arrivant dans ma classe ceux qui allaient sortir ensemble de l'année, par exemple. J'en faisais pas partie. Enfin, j'étais pas. Je voyais tout de suite le mec qui allait sortir avec toutes les filles. Mmh. Et en fait, à chaque fois, je me trompais pas. C'est peut-être là qu'a commencé mon truc d'observation.
Ça s'appelle carrément, c'est psychanalytique votre comportement. Vous passez des gens au scanner.
Psychopathologique.
Peut-être. Psychopathologique.
Oui, c'est ça.
Là, par exemple, dans la bande, qui va sortir avec qui? Ok, on va passer à autre chose. On va passer en 2004.
Ça devient intéressant pour toi.
En même temps, il n'y a qu'une fille, donc ça va être c'est un peu.
Ah oui, mais on ne sait pas. On ne sait pas si vous n'êtes pas attirés les uns par les autres.
Il y a une spécialiste.
Regarde Laurent et.
Et Fred.
Et François.
Et Fred. C'est arrivé même pas. En 2004, John Williams.
Star Wars.
Ouais, c'est encore une BO.
Ouais, c'est une BO. Ouais. Mais en fait, j'ai choisi ce morceau parce que c'est vraiment un toc que j'ai depuis les années 90. Je siffle ce truc-là toute la journée, tout le temps.
Mais vous êtes fan de Star Wars ?
Oui, j'aime beaucoup les premiers de George Lucas. Mais cette musique, quand je suis allé signer mon premier contrat pour un livre, je sifflais ça comme si c'était l'air du Jedi. J'avais atteint quelque chose.
C'est pas évident à siffler. C'est long.
Ouais.
Ça fait
j'ai pas voulu le faire. Voilà, c'est apaisant.
Joli.
Ouais, joli.
Ah, joli. Ouais. Ça, ça peut dire. C'est du live. C'était un morceau terrestre, c'est tout en live.
Et 2004-2005, on retrouve Riyad avec La vie secrète des jeunes et Retour au collège. Vous allez vous immerger dans un établissement pour publier ce retour au collège et tout raconter, tout ce que vous observez. Pourquoi l'adolescence ? Pourquoi cet intérêt pour cet âge qui est souvent un peu décrié, considéré par les parents comme le moment où on comprend plus les gamins, qui sont un peu agaçants. Qu'est-ce qui fait ?
Je crois que c'est aussi parce que j'en ai gardé plein de souvenirs et aussi que je me rappelle bien de la façon dont se comportaient les ados entre eux et dont ils se comportaient sous le regard des adultes.
Oui.
Et cette différence entre l'univers un peu caché, secret, disons, qu'ils ont entre eux et l'univers qu'ils veulent bien montrer aux autres m'avait toujours stupéfait et ça m'intéressait beaucoup en bande dessinée d'essayer d'explorer cette part cachée dont je gardais des souvenirs.
Adolescent encore en 2009. La danse du raga, et là on retombe dans l'adolescence.
Ouais, avec les beaux gosses et avec.
Enfin, adolescence plus.
Ouais, avec une autre dimension, c'est tout d'un coup comment voir ces planches s'animer, comment toucher peut-être du doigt un rêve, ce qui était peut-être un rêve pour vous, c'est donner une vie. Vraiment à vos dessins par le cinéma.
Oui. C'était mon premier film et le premier rôle de Vincent Lacoste, qui est devenu depuis une vedette. C'était hyper agréable de faire un film avec des gens qui n'en avaient jamais fait non plus. Mm-hmm. Voilà. L'idée était de faire un film de débutant à tout point de vue.
Et ça a été un succès.
Oui.
Ça a été un succès, plus de 900 000 entrées.
Et puis surtout la reconnaissance avec un César.
Oui, c'est vrai.
Oui, vous ne dites pas ça comme si c'était.
C'est vrai, j'ai oublié.
Partie des films cultes aussi maintenant. Même,
premier film à César.
Donc ça va.
Non, mais j'étais hyper content. Hein. Là,
mais il y a de quoi
Mais c'est vrai que c'était une.
Ça vous est déjà arrivé de crier ou pas de
Très très rarement. Moi, j'avoue que je suis incapable de me mettre en colère.
Les Cahiers d'Esther, l'histoire de mes 13 ans, c'est chez Alary Éditions. Et si vous n'avez pas lu les premiers, ça ne vous interdit absolument pas de prendre l'histoire en cours de route. Et je pense même que ça vous donnerait envie de repartir sur les premiers.
Une petite marche arrière.
Non, mais vraiment. Ça peut se lire comme ça. On peut prendre le train en cours de route.
Oui, c'est conçu pour pouvoir. Même dans un livre, les histoires ne se suivent pas forcément. C'est des histoires indépendantes en une page. Mm-hmm. Et on peut commencer par les 13 ans. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe. Il y a beaucoup de lecteurs, là, depuis que le nouveau est sorti. Il y a beaucoup d'enfants, de jeunes de 13 ans, justement, et qui sont contents de retrouver la jeunesse d'Esther pour la comparer à la leur avant.
Non, mais même nous, on n'a plus 13 ans depuis un bon bout de temps, mais ça nous parle.
Sauf
quoi.
Tom.
C'est fini. Capucine Dubois. Merci, Capucine, de venir à ce micro. Vous êtes psychologue spécialisée pour les enfants et les adolescents. Vous travaillez au sein de Fil Santé Jeune, un dispositif anonyme et gratuit, qui s'adresse aux jeunes de 12 à 25 ans qui ont besoin de parler uniquement de leur santé.
De leur santé au sens général du terme, donc santé
psychologique aussi.
Psychologique et même sociale, enfin.
C'est le 0800 235 236.
Exactement.
C'est un numéro gratuit.
Gratuit.
Pour les enfants.
Anonyme et national.
Et tous les jours de 9h à 23h, parce qu'il y a bien un moment où il faut se reposer. Comment définir le passage à l'adolescence? Est-ce qu'il y a un signe précis?
L'adolescence, ça commence avec la puberté, en fait. Donc, les signes de l'adolescence, en premier, c'est des signes assez visibles, en fait. Hein. C'est la poussée des seins, l'augmentation des testicules, l'envahissement des poils.
C'est sexuel, en fait, l'adolescence.
C'est des hormones sexuelles qui bombardent le corps de l'enfant qui va se transformer progressivement en corps adulte.
Et qui trouble sa psychologie aussi, qui trouble son biorhythme.
Qui trouble son biorhythme, qui trouble aussi, qui a fait apparaître le désir aussi, le désir, le sien, et puis aussi le désir de l'autre. On disait qu'Esther, elle était confrontée aussi au regard et au désir des autres sur elle-même, donc avec son corps en transformation, et puis avec tout ce que ça peut provoquer aussi de recevoir comme ça le regard d'hommes parfois, ou de personnes plus âgées qu'elle.
Est-ce que l'adolescence commence plus tôt avec tous les peut-être je sais pas toute la nourriture survitaminée prise et les perturbateurs endocriniens.
On imagine que oui. Après, j'ai pas d'études vraiment certifiées qui pourraient le démontrer. C'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que les filles commencent leur puberté plus tôt que les garçons.
À quoi, à 10 ans?
Vers 10 ans, voilà, ça commence vers 10 ans. Alors que les garçons, enfin, tout dépend des filles. Hein. Il y a des filles qui vont commencer plus tardivement. Ouais. Mais en général, les filles commencent plus tôt.
Il faut dire que c'est lié aussi à la croissance, c'est-à-dire que
il y a un pic de croissance, voilà. Exactement. Et puis les garçons, ce sera plutôt vers 12 ans, et puis ils la terminent également plus tard aussi.
Alors, on parle d'adolescence aussi. Est-ce que les ados sont ados plus tôt, c'est-à-dire à 10 ans, et le reste jusqu'à leur majorité, voire plus?
Moi, j'aime bien. En anglais, on dit teenager. Et teenager, ça correspond aux années teen, en fait.
Avec 10, ouais, voilà. C'est ça. Et donc de 10 à 19.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut aller de 10 à 19, parfois jusqu'à 25.
Ouais. Je pense.
Et puis parfois un peu plus loin, mais en même temps, quand on a plus de 25 ans et qu'on a encore des problèmes d'adolescence, c'est une autre histoire. Mais l'adolescence, oui, c'est parce qu'aussi, c'est un phénomène de société, c'est aussi lié à au fait qu'on soit autonome financièrement beaucoup plus tard, et donc on est confronté à des questionnements et puis des conflits avec les parents plus longtemps aussi. Donc,
alors, au Fil Santé Jeune dont vous occupez, où vous travaillez, est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent plus que d'autres?
Alors, selon les âges, c'est un peu différent.
Des fils de discussion, j'ai envie de dire.
Oui, il y a des fils de discussion. Bon, les fils de discussion, ils sont vraiment autour du corps au démarrage de l'adolescence. Donc, on disait les poils. Il y a une jeune fille qui nous disait qu'elle en avait absolument partout. Et puis d'autres jeunes lui répondent de manière plus ou moins tendre, pas toujours tendre d'ailleurs.
Comment ça d'autres jeunes? Je comprends pas. C'est-à-dire que dans le fil de discussion, ce sont des jeunes.
Il y a des fils de discussion sur des forums, pardon, sur le site internet.
Donc c'est commun.
Ça c'est des fils de discussion entre jeunes.
D'accord.
Et puis auprès de nous, par exemple, hier, il y a deux jeunes filles qui ont appelé avec une liste de questions sur c'est quoi l'hymen, à quoi ça sert. À quel âge on a le droit d'avoir des premiers rapports sexuels? Est-ce que ça fait mal? Donc toute une liste comme ça de questions.
Ça, ce sont des questions qui ont toujours existé.
Mais elles reviennent
avant même que les forums et Internet existent.
Bien
sûr. Mais elles sont le sujet, malgré les cours d'éducation sexuelle, malgré tout ce que l'on peut voir sur justement Internet ou la parole libérée qu'il peut y avoir aussi au sein des écoles.
Elles sont le cœur de leurs préoccupations.
D'accord.
Et donc, ils pensent Ils pensent à ça énormément, ils en ont peur, et ils ont besoin d'aller vérifier les informations qu'ils ont eues parfois sur Internet.
Les règles sont abordées dans les cahiers d'Esther aussi, avec cette notion de « j'ai mal au ventre, je deviens enfin femme », qui est, d'ailleurs ça va pas beaucoup plus loin dans la bande dessinée, mais c'est vrai que c'est un moment clé extrêmement important dans la vie d'une femme.
C'est un moment important. Ça dépend des femmes.
D'accord.
Mais pour certaines jeunes filles, c'est elles les attendent avec impatience. Hein. On a.
C'est un signe de maturité. C'est-à-dire, je grandis. Je ne suis plus une petite fille. Je suis plus un bébé.
Je suis plus un bébé. Alors pour les filles, ça va être effectivement les règles. Pour les garçons, ça va être les premières éjaculations. Ça me fait penser à un jeune homme qui nous a appelé et qui savait que c'était une théorie un peu farfelue qu'on lui avait racontée, que ses copains lui avaient racontée, mais il imaginait qu'il y avait un gland de lait. On pourrait perdre comme les dents de lait au moment de la puberté.
D'accord.
Donc voilà. Donc c'est des théories.
La question comme ça, c'était pas la peine d'en parler à la radio.
Ouais. Mais voilà. En même temps, si je peux me permettre, il y a les règles, on les subit, elles arrivent, c'est elles qui décident d'arriver. L'éjaculation, on la provoque. C'est quand même pas
les
la
premières
même...
éjaculations, on la provoque pas toujours. Hein. Elles arrivent de manière.
Rappelle-toi, Nagui.
Nocturne.
Bah, oui.
Elles sont pas forcément.
Encore ce matin. Quand on s'est croisés dans.
Ça c'était le bureau.
C'est
quoi?
Pas contrôlé, voilà, c'est pas toujours contrôlé. Après, ce qui est vrai, c'est que pour les garçons, souvent, les premiers signes de la puberté sont plutôt associés à du plaisir,
voilà.
Alors que pour les filles, effectivement,
c'est
on va avoir plutôt des douleurs, des choses qui sont un peu moins faciles à vivre.
Oui, et puis toutes les questions qui vont avec, et si j'en parle plus, c'est parce que justement, c'est un sujet tabou,
oui.
et que donc on dit qu'il faut pas en parler, que la publicité...
Moi, les filles entre elles en parlent quand même pas mal, ouais. elles se racontent des histoires, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre...
Elles le vivent vraiment comme quelque chose de joyeux, l'arrivée des règles.
Pas toutes.
Ah ouais, parce que... ouais.
Non, c'est plutôt quelque chose qu'elles attendent avec impatience et
appréhension. Il y a la contrainte de l'hygiène aussi, de gérer serviettes, tampons, est-ce que je mets pas, est-ce que ça fait mal ou pas. Enfin, il y a plein de questions qui vont avec.
Serviettes, tampons, bourrées de pesticides, bourrées de cochonneries, donc en plus on est obligé de se... Voilà, se ruiner la santé dès le départ. Et à quel âge à peu près en moyenne les règles, c'est quoi? C'est 12 ans?
C'est 11-12 ans,
ouais. Ouais, c'est ça, jusqu'à la ménopause, vous imaginez le nombre d'années où tous les mois on est obligé de se pourrir.
Non mais c'est vrai.
Non, c'est vrai, tu as raison.
Franchement,
tu as raison.
J'y pense pas.
Est-ce que les filles parlent plus sur votre fil que les garçons?
Les filles parlent plus parce qu'on leur apprend à parler davantage. Les garçons vont passer peut-être davantage par des blagues. Ils vont arriver en groupe, ils appellent ensemble, ils rigolent tous ensemble. Mais en même temps, ils posent quand même des questions.
Le fameux rire bête avant de qu'il soit un problème, c'est ça. Ouais, on l'a tous eu.
On l'a encore.
Ouais. la crise d'ado, c'est-à-dire le déni de l'autorité, laisse-moi, je vais mourir, tu rentres pas dans ma chambre.
Lâche-moi,
t'es pas mon père, t'es pas ma mère, et ainsi de suite, tout ça.
J'ai pas demandé à naître.
Exactement. C'est inévitable.
Non, c'est évitable. Après, c'est important aussi de se révolter et de créer un nouveau monde à son image. On est en train de, ils sont en pleine construction, en pleine métamorphose, et ils ont besoin de créer leur propre identité. Et pour ça, de se séparer, c'est aussi l'âge des désillusions. Les parents descendent gentiment de leur piédestal. Ils sont plus aussi extraordinaires qu'avant.
Ouais.
Et c'est ce qui est dur pour les parents. Hein.
Et pourtant, dans les cahiers d'Esther, il y a un gros câlinou qui est fait à un moment donné. C'est-à-dire qu'elle a le sentiment, elle rejette ses parents ou elle a le sentiment de ne pas être aimée par ses parents. Et puis après, il y a le câlin avec sa maman, quoi.
Oui, non, elle adore ses parents. Mm. Et c'est vrai que c'était rigolo. Je me dis, est-ce qu'elle va vraiment faire une crise d'ado? Comment je vais faire pour faire des bandes dessinées si elle est en conflit avec ses parents? C'est un vrai problème, parce que je ne vais pas raconter que... Et en fait, non, ça va très très bien. Elle est amoureuse de son papa, sa mère...
Il y a une tendresse
fait
pour, le père qui est limite de la pitié, quelquefois.
Parce qu'en fait, elle se rend bien compte. Alors, pour le coup, il descend en effet de son piédestal.
Oui,
c'est plutôt, le pauvre. Il ne sait pas ce qu'il fait, il est un peu largué. c'est plus...
Il est tellement mignon.
Il est trop mignon, mais c'est un peu...
Alors que quand elle avait 10 ans, il était
le héros.
Un héros, voilà. Donc là, il commence à devenir un être humain normal avec des défauts.
Vous iriez jusqu'à conseiller les cahiers d'Esther pour une ado, justement?
Ah, mais complètement. Et je ne le conseillerais pas qu'aux filles, je le conseillerais aussi aux garçons qui ont du mal à comprendre.
Comment ça marche,
voilà. Ils ont très envie de savoir comment le corps féminin fonctionne, qu'est-ce qu'elles ont dans leur tête aussi. Et donc, bien sûr. Oui.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu à ce micro. Capucine Dubois, je rappelle le numéro de téléphone gratuit pour les jeunes de 12 à 25 ans qui ont besoin de parler, que ce soit de leur santé, que ce soit de leur psychologie, de leur mal-être ou de leur bien-être.
Oui.
C'est le 0800 235 236. Bonne journée.
Merci.
Tanguy Pastureau, ça va Tanguy ?
Ça va et vous ?
Oui, très bien. Bon. Les publicités pour les voitures à moteur thermique vont changer.
Oui, parce que comme elles polluent, mais que la ministre en charge cire les mocassins des gens des lobbies de l'auto, hein, même en dessous des glands, eh ben ils vont mettre un message dans les pubs pour dire que sinon on peut prendre les transports en commun. C'est aussi con que dans la pub pour Nutella quand il est écrit qu'on peut bouffer 10 clémentines. Parce que si demain je me paye une Fiat Tipo, c'est pas pour prendre le RER.
On en reparle après les infos de midi.
Oui.
La bande originale avec Léa Cadeau-Boudéry.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Tanguy.
Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy Bastureau.
Bonjour.
Fred Sigris.
Bonjour.
Alexis Le Rossignol. Et notre invité Riyad Satouf.
Bonjour.
Riyad.
Riyad Satouf avec les Cahiers d'Esther, l'histoire de mes 13 ans. C'est employé à la première personne, c'est-à-dire que vous vous mettez vraiment à sa place, dans sa tête et dans son cœur.
Bah, dans son cœur, peut-être pas forcément, parce que les Cahiers d'Esther, c'est pas non plus un journal intime. C'est-à-dire, j'essaie jamais d'avoir des histoires extraordinaires ou des choses comme ça. Mais comme elle m'envoie souvent des SMS ou des mails ou des messages et qu'elle emploie le « je », je trouve, j'ai choisi en effet d'utiliser le jeu. Je trouve ça très, très rigolo dans sa façon de parler.
Comment sont organisés vos rendez-vous ? Il y a un jour précis de la semaine ? Il y a simplement sur justement un texto ?
Non, vraiment c'est très simple. En fait, je la vois assez rarement parce qu'elle habite loin de chez moi et on se téléphone ou elle m'envoie des SMS, des captures d'écran ou des fois des mails. Parfois son père même, il me dit « Ouais, il y a un truc pas mal là, avec ça, un de ses profs, tu devrais l'appeler là. » Elle a un prof là qui est complètement cinglé, là. Appelle.
Il parle un peu comme ça.
Et donc voilà, c'était ça se passe assez facilement.
Mais que va-t-elle devenir Esther quand la série va s'arrêter ? Parce que tout d'un coup, ça doit être pour une petite fille, enfin une adolescente comme ça, de raconter toutes ces histoires, d'alimenter finalement
jusqu'à
une 18, série.
Jusqu'à 18 ans. Hein.
Ouais, une série à succès, mais à 18-19 ans, après, elle
Non, mais en fait, elle est. Ce qui l'empêche d'être complètement fixée sur cette série non plus, c'est que comme je change énormément de choses, elle a parfois l'impression que je raconte pas vraiment sa vie. Par exemple, il y a des gens qu'elle déteste, et à chaque fois elle me dit, mais pourquoi tu mets pas leur vrai nom et tout? Ça leur ferait, ils verraient que je l'ai. Enfin, elle voudrait être plus méchante, en fait, voilà. Donc, en fait, elle se rend compte
du pouvoir de cette bande dessinée, de son succès. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment le nom du méchant, il prendrait cher.
Oui, voilà. Mais en même temps, elle voit bien que c'est pas non plus fait pour faire mal, c'est pas sa vie à 100%. Complètement, parce que je la dissimule, donc ça lui permet de garder une distance.
Et elle parle vraiment déjà des métiers dont elle rêve.
Ouais, quand je lui ai demandé tout à fait les métiers qu'elle déteste. En général, elle adore les listes, donc je lui fais souvent faire des listes, les listes de métiers qu'elle déteste, les listes de métiers qu'elle adore, la liste de ce qu'elle ferait si elle était un garçon, etc.
Alors métier agréable, mannequin top modèle.
Oui, ça c'est un grand classique.
C'est quand même le premier qui arrive. Actrice célèbre.
Oui, pour pouvoir séduire Timothée Chalamet, bien sûr.
Ouais.
Et j'adore chanteuse avec juste un piano et un stade. C'est pas chanteuse, c'est chanteuse, piano, stade.
Bah, elle est pas bête, elle a pris les métiers qui payent le plus pour les femmes.
Hein. Attends, c'est pas fini, il y a testeuse de vacances.
Oui.
Et ça existe. Ouais, ça existe.
Elle l'a vu passer sur Internet.
J'ai pas vu. Moi, c'est un pote qui est comédien. Comme tous les comédiens, il y a des moments où ça joue, il y a des moments où ça ne joue pas. Et ayant une période creuse, a contacté un magazine qui parle de vacances en disant, écoutez, vous m'envoyez à tel endroit, je vous fais des photos et je vous raconte. Et il a fait ça dans plusieurs spots de la Terre, mais des trucs de dingue où tout est payé. C'est-à-dire le voyage, l'hôtel. Et en plus, quand il arrive dans l'hôtel, les hôteliers savent qu'il vient faire un reportage sur les vacances. Ils acceptent tout, quoi.
Ouais. C'est cacahuètes et pistaches.
Ouais, c'est embêtant d'être payé pour partir en vacances, parce que c'est une petite récompense que tu te payes toi-même de partir.
De là dire n'importe quoi, les là.
Attends,
c'est fatigant d'être payé pour partir en vacances.
Non, mais si, tu m'envoies en vacances pour écrire des articles et faire des papiers, je vais.
D'abord, c'est pas des articles, c'est un article.
C'est un seul article.
Et le gars, et le gars a réussi à conceptualiser les photos de vacances prises avec un smartphone, c'est-à-dire en disant je fais vraiment le touriste. Et donc il a même pas besoin d'avoir une connaissance de photographe dingue. Et puis surtout maintenant avec les appareils, les smarts et les filtres, il obtient des choses
incroyables et fausses.
Et fausses. Dans les métiers d'Esther, il y a testeuse de nouveaux téléphones.
Ah oui, oui, elle est toujours obsédée par les smartphones. Elle n'a pas le droit d'avoir un compte Instagram, d'ailleurs, pas encore. Alors, elle rêve d'avoir un compte Instagram. Moi, j'ai un compte Instagram, et il y a quelque temps, elle m'avait parlé d'une chanteuse qu'elle adore, qui s'appelle Angèle, et j'en avais fait une page. Et en fait, la vraie chanteuse Angèle a mis sur Instagram le dessin que j'avais fait d'elle, en disant qu'elle adorait les cahiers d'Esther. Là, j'ai cru que je la perdais, la vraie Esther. Je me suis dit, elle pète un câble. Elle était là, c'est pas possible, on peut aller la voir en concert, tu la connais? C'est quoi la... Elle était complètement... Donc en fait, je me suis dit, ouais, en effet, faut peut-être pas qu'elle ait un compte Instagram, en fait, ça va. Voilà.
Et alors pourquoi elle n'a pas le droit d'avoir Instagram par ses parents?
Ouais, je pense que ses parents, mais ils ont raison, ils lui ont mis des caps.
Elle a un téléphone.
Elle a un téléphone, mais elle a un iPhone 3. Donc elle peut pas avoir toutes les dernières fonctionnalités. Elle a quand même un...
Elle a eu quand son premier téléphone? Parce que là, en Angleterre, par exemple, il est recommandé de ne donner le premier téléphone qu'à l'âge de 12 ans, pas avant.
Oui, mais je crois que c'est ça. Elle a eu un Nokia en 6e. Donc elle était très mal d'avoir un téléphone comme ça. Parce qu'il,
c'est vrai que c'est souvent la 6e. Voilà. C'est vrai que c'est souvent la 6e
au collège. Ouais. Et en fait, elle l'a cassé volontairement, je l'ai raconté dans une histoire, sans le dire à ses parents, mais après, ils ont été au courant. Et son père lui a donné un vieil iPhone 3 qu'elle a toujours.
Et donc Instagram, il faut attendre quoi, 14, 15 ans?
Oui, je pense 16 ans. Moi, je pense qu'ils veulent attendre qu'elle ait 16 ans.
Ah oui,
c'est assez strict. Là, il y a quelques temps, justement dans cet album, je raconte, son père lui a confisqué les portables à ses deux enfants, parce qu'ils en faisaient toute la journée. Donc ils n'ont plus le droit de l'utiliser que 20 minutes par jour. Donc elle s'est remise à lire des livres. Alors pour elle c'est un cauchemar, mais en même temps elle lit maintenant. Elle peut me raconter les histoires de livres qu'elle lit.
Tolkien notamment.
Tolkien, voilà.
Et il y a encore des métiers dont elle rêve, comme testeuse de pizza. Ça, ouais. Créatrice de pizza.
16 fromages.
Ça j'adore l'idée.
16 fromages.
J'adore l'idée. Vétérinaire. Puis après ça, puis plus ça va, plus ça s'intellectualise avec testeuse de livres, éducatrice de jeunes garçons, vétérinaire pour les animaux, donner des conseils de vie aux autres, un peu coach de vie comme on en a parlé tout à l'heure, mais ça finit mal. Ça finit avec milliardaire discrète. Métier de rêve, milliardaire discrète. C'est-à-dire, je suis milliardaire, mais je suis dans la foule, personne ne sait que je suis milliardaire et je mange ma petite glace.
Et à contre-courant, pendant que tout le monde va au boulot, moi je vais dans l'autre sens.
Exactement.
Je trouve ça plein de modestie, de revenus, de distance, c'est très politique.
C'est pas bling-bling.
Non.
Les cahiers d'Esther, c'est drôle, c'est intelligent et c'est vrai, quoi. C'est juste ça qui est formidable. C'est signé Riyad Satouf, c'est dessiné aussi Riyad Satouf parce que j'adore ce dessin. Voici Tanguy Pastureau.
Où ça? C'est pas mal, hein?
Tanguy, vous allez nous parler d'Elisabeth Borne.
Oui, alors tout d'abord, je vais vous dire qui c'est, hein, parce qu'elle est moins connue que la musique folk aux métropolis de Rungis. Eh bien, Elisabeth Borne, c'est la ministre des Transports, hein, une petite dame coiffée comme Dave, qui dégage la même envie de vivre qu'un oursin sur lequel aurait marché un mec avec le pied plein de mycose. Il faut la comprendre, rien n'est moins passionnant que le ministère des Transports. Toute la journée, on inaugure des tronçons de tramway où des pervers viendront se coller contre l'arrêt des fesses de jeunes filles en fleurs, selon la technique du Tetris. En plus, maintenant, il faut gérer les morts en trottinette électrique. Tous ces gens qui pensent que lancer à 30 km/h en trottinette face au kangou du plombier, c'est eux qui vont plier le kangou. Les types, même dans le 12e arrondissement, se croient dans les Avengers. Bref, à titre personnel, je préférerais me faire épiler la disqueuse ou travailler à CNews que d'être ministre des Transports. CNews, pour l'anecdote, qui a censuré hier la une de Charlie Hebdo en disant qu'elle était vulgaire. Mais se faire taxer de vulgarité par CNews, c'est comme si Ronald McDonald déboulait à Top Chef pour vous expliquer en quoi votre blanquette est ratée. Mardi, donc, Elisabeth Borne était sur BFM, la chaîne qui part en break News, dès que les 14 derniers gilets jaunes font un barbecue dans un square, face à Jean-Jacques Bourdin. Alors elle a dit 2-3 choses, toutes moins importantes que l'annonce d'un nouveau single d'M. Pokora, comme le fait qu'elle se verrait bien maire en 2020, elle serait parachutée à Caen, hein, sa manière à elle de fêter le D-Day. Elle a dit que le port du casque à vélo ne sera pas rendu obligatoire, on va continuer à ramener chez eux des cyclistes avec le crâne ouvert en 10, dont l'épouse dira au moins maintenant je sais ce qu'il a dans la tête. Donc là on sent Bourdin déçu. Hein, déjà Borne, ils l'ont calé parce que personne d'autre d'autres n'étaient dispo. Même Fifi, le cocker du parti animaliste, a dit non, le matin 8h30, c'est l'heure de mon premier pipi, à moins que je puisse venir avec mon buisson, c'est niette. Ils étaient à deux doigts de déterrer Raymond Barre et foutre son crâne sur la table de Bourdin en se disant il va peut-être avoir son quart d'heure shakespearien, le pépère. Un tout plutôt que borne. Mais c'est la seule à avoir dit oui. Donc ils l'ont prise, certains de faire 16 fois moins d'audience que l'âne trop sur Gulli. Et soudain, un éclair fugace passe dans les yeux éteints de la ministre. Elle a une idée, mieux, une proposition. Ça lui fait la même tête que le directeur du centre des malades du paludisme à Cotonou quand il voit arriver Bill Gates avec un chèque de 4 millions de dollars. Alors vous savez que des députés ont demandé à ce que les pubs pour les voitures essence soient interdites parce qu'elles polluent. Mais Elisabeth Borne ne peut pas faire ça. Sinon les lobbies de l'automobile la foutent dans le coffre d'une Renault Mégane et la coulent dans la Seine où elle nourrira le dernier poisson en vie. Hein, les lobbies, c'est la plaie de la République. Moi, au lobby, à part Chantal, j'en aime aucun. La ministre ne peut donc rien faire. Elle se retrouve dans la position de l'homme tronc qu'on a mis dans les buts à la finale du mondial et qui voit Kylian Mbappé se diriger vers lui avec le ballon. Mais elle est maligne. Et là, elle annonce à Bourdin que dans les pubs pour les voitures, il y aura un message vantant les mérites des transports en commun. C'est comme si à l'entrée du Cap d'Agde, on collait l'évêque du coin avec une pancarte. Sinon, existe aussi l'abstinence.
Est-ce qu'ils vont faire comme pour le tabac, comme pour la malbouffe, en fait, c'est-à-dire toujours rajouter un petit mot à la fin?
Mais exactement, Nagui, sauf que désormais, la pollution de l'air fait plus de morts que le tabac, donc on devrait se bouger. Moi, si j'avais été Jean-Jacques Bourdin, bon, déjà, j'aurais changé de coiffure, parce que ce demi-mulet en train de lui crever dans la nuque, c'est pas possible. Mais en plus, j'aurais dit à Elisabeth Borne, ma Zaza, je t'adore, mais tu quittes pas le studio tant que t'as pas fini de te foutre de la gueule des gens. Enfin, si vous voyez une pub pour l'Audi A7 et que vous l'achetez, a priori, c'est que l'existence du bus, vous vous en tapez comme Jacques Seguela de la protection solaire, un 10-50. Et demain, à l'aéroport d'Orly, on va faire quoi? Mettre des affiches avec une photo de Nicolas Hulot en deltaplane et écrit en dessous, ça pourrait être vous? Mais déjà, la pub pour les Mars barres glacées avec marqué qu'on ferait mieux de manger une poire, c'était idiot. Mais là, on atteint des sommets. Pardon, mais si demain les cons se mettent à jouer au poker, Elisabeth Borne va racheter Winamax. Et encore, là, on est sur la pollution, mais bientôt, il y aura un avertissement pour tout, pour tout. À la librairie, sur le dernier Guillaume Musso, il y aura un bandeau avec marqué « Vous pourriez aussi bien lire les œuvres complètes de Montaigne ». Sur Tinder, vous materez le profil de Grégory, 28 ans. Là, un texte s'affichera disant « Choisissez plutôt Steven, lui n'a pas les pieds qui puent ». Mais nous, à la bande originale, on sera obligé de dire bonjour. Aujourd'hui, on a Riyad Satouf, mais si vous préférez les boucs et le lin, sachez que Stéphane Bern accueille sur RTL Christophe Mahé. Non, mais on dirait pas comme ça, mais elle est futée, Elisabeth Borne. Elle a la malice de Tic et Tac réunis. Parce que mardi, elle annonçait un geste écolo sans avoir à en foutre une rabe. Une pub pour la Clio? Prenez le métro. Or, dire il existe des solutions alternatives pour se déplacer n'est pas comme de dire la voiture est dangereuse, parce que ça nous défonce les bronches et qu'on finit par choper plus de crabes qu'il y en a à la criée de Concarneau. Donc moi, j'ai une excellente nouvelle pour les habitants de Caen. En 2020, Elisabeth Borne va sans doute se présenter au municipal chez vous. Alors, elle n'est pas dangereuse, la pauvre, elle est inactive. Mais il existe des solutions alternatives à Elisabeth Borne. D'autres candidats qu'elle existent, pour qui vous allez pouvoir voter. En toute logique, elle mettra leur nom en bas de ses affiches à elle.
Merci, Tony Passion. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Puisqu'on parlait de dessin, Riyad Satouf, et de cette une de Charlie Hebdo, vous en avez pensé quoi? Vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu passer. Non, moi, ça me choque absolument pas, bien sûr.
Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un sexe de femme où le ballon remplace le clitoris.
Le problème de Charlie, c'est qu'ils sont devenus beaucoup plus connus qu'ils ne l'étaient avant, parce qu'en fait, maintenant, quand ils font un dessin, ça devient un événement national. Tout le monde donne.
Puis la couvée virale.
La couvée virale avec les réseaux sociaux.
Cherche la polémique, vous voulez dire?
Je sais pas si on cherche la polémique, mais dans l'histoire de Charlie, il y a des couves qui, enfin, c'est une tradition. Il y a eu des couves bien plus mordantes, bien plus acides.
Bien plus insultantes.
Bien plus insultantes aussi.
Est-ce que, justement, le dessin permet des choses que la photo, le cinéma et l'écrit ne permettent pas? On s'exprime plus et mieux avec un dessin?
En tant que dessinateur, oui, je vais vous dire que oui,
bien
sûr.
Non, mais à quel point, c'est ça que
je trouve, c'est ce qu'il y a de plus. Je trouve que la bande dessinée, c'est ce qu'il y a de plus puissant. On est libre de faire une bande dessinée de 2000 pages, par exemple.
On n'est pas libre. J'imagine que l'éditeur va vous dire ça coûte trop cher, je peux
pas
le faire.
Non, pas forcément. Non, pas du tout. En fait, le dessin.
C'est vrai que l'arabe du futur, c'est un petit peu.
Le dernier volume faisait 350 pages, mais en fait, on peut faire une bande dessinée aussi longue qu'un roman. Et je trouve que le dessin permet d'exprimer des choses qui sont très difficiles à exprimer avec des mots. Il y a une ambiance. En plus, les couleurs ont vraiment un sens. Et par exemple, si vous regardez, c'est comme les taureaux. Par exemple, si vous regardez un carré rouge, votre rythme cardiaque augmente naturellement, en fait. Et vous pouvez.
Vous ne parlez pas, regardez le décor ici. Voilà, c'est que des carrés rouges.
Vous pouvez, vous manipulez vraiment le lecteur avec le dessin. Vous pouvez vraiment avoir un rapport très intime avec lui.
D'accord. Voilà un avec qui je n'ai pas du tout envie d'avoir de rapport intime. Frédéric Sigrist.
Eh oui. Bon alors la semaine dernière j'allais pas bien, cette semaine je vais pas beaucoup mieux.
Mais attendez, ta fille est rentrée ou pas de classe découverte?
Non, elle est rentrée. Et je crois que je me suis totalement trompé d'orientation en devenant parent. Ça a été une leçon de vie cette classe découverte, parce que de la même manière que c'est pas parce que t'as des jambes que tu dois porter des pantacours, c'est pas parce que t'as un sgeg qu'il faut forcément faire des gosses. Moi, ma fille, j'imaginais qu'elle allait rentrer de là-bas traumatisée, avec des poux, qu'elle se serait cachée derrière le canapé en position fœtale et qu'elle aurait grogné quand on se serait approché d'elle. Tu vois, moi, dans ma tête, j'ai laissé partir ma fille, je m'attendais à retrouver Greystock. Et le même état dans lequel ma femme me retrouve quand elle me laisse tout seul pendant plus de 2 jours. Eh ben, que dalle! Que dalle! Sa mère et moi, on lui a manqué comme Manuel Valls manque à la politique française. Rien à carrer! J'étais dégoûté. Franchement, si j'avais vraiment voulu être déçu par un truc que j'ai fait, j'aurais réécouté une de mes chroniques, quoi. Le premier truc qu'elle nous a demandé quand elle est rentrée, c'est « Est-ce que j'ai le droit de regarder un dessin animé ?» Mais putain, c'est pas possible. Le truc qui lui a vraiment manqué en classe découverte, c'est pas nous, c'est pas son frère, c'est Netflix. C'est ma fille a 6 ans, elle a un téléphone et une connexion 4G, mais plus jamais elle rentre à la maison, hein. Et pendant longtemps, je pensais que les enfants, à la fête des mères, à la fête des pères, ils t'offraient des cadeaux de merde, faute de moyens. Mais non! C'est juste que pour eux, on vaut que ça! Nous, les parents, on se ment à nous-mêmes d'une force sur la place qu'on occupe vraiment dans le cœur de nos enfants. Il faut pas confondre amour et dépendance. En fait, c'est juste ça, ils ont pas le choix. Vincent Lambert, s'il se réveille un jour, il va pas écrire des poèmes à sa perfusion, hein. On est comme ces maîtres blancs dans les plantations de champs de coton qui regardaient les esclaves en se disant « Oh, ils doivent être hyper reconnaissants. Je leur file tout de même de quoi manger, un toit au-dessus de leur tête. » Là, en classe découverte, elle s'est amusée avec ses copines, elle s'est cultivée, s'est fait des souvenirs rien qu'à elle. En fait, moi, je pensais que la classe découverte, c'était l'équivalent du service militaire pour les mômes. Mais pas du tout. La Corée du Nord, c'est nous. C'est nous, les parents. La version guadeloupéenne de Kim Jong-un, c'est moi. À leurs yeux, on est des putains de dictateurs. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais on fait ça pour leur bien. Et c'est exactement ce que dirait un dictateur. J'ai voulu avoir des enfants, mais ce qu'on oublie toujours de se demander, c'est, s'ils avaient eu le choix, est-ce que nos enfants auraient voulu nous? Si on ouvrait la parentalité au vote, moi je serais peut-être surpris de voir que je ferais le score de Nicolas Dupont-Aignan. D'ailleurs, la nature est bien faite, c'est pour ça que les bébés, ils parlent pas tout de suite à la naissance, hein. Sans quoi, dans les maternités, on aurait une recrudescence de nourrissons qui gueuleraient « Ah, même pas en rêve, moi je repars pas avec eux! J'ai le temps à de demander à Angelina Jolie si elle veut pas m'adopter !» 2 ans pour faire sa première phrase, c'est le temps de se faire à l'idée. 2 ans, c'est le temps qu'il faut pour passer du déni à l'acceptation. Et attention, je suis pas en train de dire que c'est la faute des enfants. Eux, finalement, ils s'adaptent, ils font comme ils peuvent. Ce que je dis, c'est que si, par exemple, j'attache une femme à un radiateur dans une cave pendant 12 ans de sa vie, que je lui dis quoi manger, quoi regarder et comment s'habiller, bon, ça serait quand même gonflé de ma part d'appeler ça une belle histoire d'amour. Pourtant, en tant que parent, c'est ce qu'on fait. Et ça m'a fait réfléchir à plein de choses. Toutes ces femmes à qui on a dit pendant des siècles qu'elles n'avaient pas le droit de travailler, qu'elles devaient rester à la maison pour élever les enfants. En fait, on les a fait travailler en masse dans une des seules disciplines où la méritocratie n'existe pas. Mère de famille, ça rapporte que dalle en point retraite. Et puis niveau reconnaissance, moi je vois ma mère. Elle m'a élevée toute seule en bossant comme une aide-soignante à l'hôpital. Même les Mayas, ils ont fait moins de sacrifices qu'elle pour que je manque de rien. Et ben des fois, elle me téléphone, je me vois. J'ai même pas 5 minutes de temps à lui consacrer pour lui expliquer comment retrouver son mot de passe pour aller sur ses comptes en ligne. Bon, faut dire qu'elle perd très souvent ses mots de passe et qu'en plus, elle est convaincue que je peux pirater le FBI parce qu'elle m'a vu jouer une fois à Street Fighter. Hein. Mais bon, je m'en rends compte quand j'y réfléchis, je suis l'ingratitude incarnée. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un être aussi ingrat avec celle qui l'avait élevé, c'était Emmanuel Macron avec la gauche. Donc maman, si tu écoutes cette chronique, je te le dis, je te présente officiellement des excuses pour ce non-retour sur investissement. Et de toute façon, sois rassuré, j'ai des mômes, et niveau ingratitude, il semblerait qu'ils tiennent de moi.
Merci Frédéric Sigrist. Et bisous à maman.
Belle lucidité.
Avec Nagui. Et on retrouve Frédéric Sigrist du 19 au 22 juin à la Fontaine d'Argent, c'est à Aix-en-Provence.
Les cahiers d'Esther. Esther a été aussi en saison dessin animé sur Canal. Est-ce que ça va aussi se poursuivre?
Tout à fait, on est en train de faire la saison 2 et 3 là. Il y a 2 saisons de plus.
Alors, à quel point ces cahiers qui sortent aujourd'hui sont déjà dans ces saisons 2 et 3? Quel est le rapport entre les tomes, finalement, et les saisons?
C'est exactement la même chose que les livres, c'est-à-dire chaque saison est une année.
Donc saison 2, c'est le tome 2, saison 3, le tome 3. Donc lui, il va attendre sa saison 4 pour exister en bande dessinée.
Ouais, tout
d'accord.
À fait.
Et vous chapeautez la fabrication, j'imagine. Est-ce que c'est pas vous qui dessinez c'est un atelier, sont des infographies.
Comment je corrige.
Comment vous retrouvez la patte?
Ben, en fait, c'est un studio donc qui s'appelle Folimage, qui est situé à Valence, et je co-réalise la série avec Mathias Varin, qui est un super réalisateur. Et j'ai écrit les scénarios. Alors, en fait, je fais un petit enregistrement sonore de chaque épisode. J'imite Esther, j'imite les bruitages, je fais tout. Et c'est
On a vu comme vous faisiez.
C'est avec cette petite bande son qui découpe l'épisode en storyboard. Voilà. Et ensuite, on réenregistre les voix des comédiens par-dessus.
Très bien. La réalisation, justement, cette fois-ci, de longs métrages.
Ah, j'ai quelques projets, mais bon, je continue à faire des bandes dessinées parce que c'est quand même ce que je préfère.
On attend l'Arabe du futur. Hein.
Ouais, merci. Mmh. Merci.
On devrait attendre l'Arabe de l'espace. C'était un projet, ça, non?
C'était un projet, ouais, que j'avais quand j'étais jeune, mais qui avait été refusé partout.
C'est le projet de Marine Le Pen aussi.
À propos de à propos de l'espace et de Mars, l'enchaînement est long, mais il existe. Non, mais
on attend.
Vous avez dessiné la couverture du Robert, le petit Robert avec notre pote Alain Rey en couverture, et vous avez dit parmi les mots qu'il faudrait trouver, créer, inventer pour le Robert, c'est le mot qui expliquerait comment on atterrit sur Mars.
Mais oui.
On a l'uni sur la Lune, donc vous proposez à Marsir.
À Marsir, ouais, mais je crois que l'Académie française avait aussi beaucoup râlé avec à l'époque de à l'unir. Je crois qu'ils avaient ils avaient refusé. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mot pour se poser sur d'autres mondes. En anglais, c'est to land, landing. Donc il n'y a pas de rapport à.
Non, on peut dire atterrir sur Mars, tout simplement.
Oui, mais atterrir.
Amérir.
Ah ben non, à l'unir.
Mais
oui,
mais landing aussi.
Se poser.
Non, land, c'est pas earthing.
Mais ouais. Land, oui, c'est
land,
le sol.
C'est le pays.
C'est le sol, c'est la
planète. Mais atterrir, vous êtes sûr que c'est pour la planète Terre ou c'est juste pour la Terre, le sol?
Si à l'unir existe.
Si, il a raison. Ouais. Alexis, pardon.
L'alpinisme se pratique partout et on ne dit pas de l'Everest.
Bah,
c'est pas que les Alpes, ouais, c'est ça que tu veux.
Voilà. Mais là, tu viens d'ouvrir une porte dans mon esprit, c'est un truc de malade.
Tu viens de comprendre que alpinisme vient des Alpes, en fait, c'est ça?
Ouais.
Écoute. Et voilà.
Ta vie va être très longue.
Il y a des gens qui osent me dire que la bande originale, c'est pas une émission culturelle.
Ta vie va être super longue. Et à propos de vocabulaire, il y a pas mal de mots aussi inventés par Esther.
Elle les invente pas vraiment, parce que ce sont des mots qu'elle utilise.
Alors, c'est des mots inventés par les adolescents, en règle générale, et qu'elle reprend.
Oui. C'est souvent des mots qui sont des contractions d'autres mots. Par exemple, quand elle dit, plutôt que de dire je m'en bats les couilles, elle va dire je m'en bats les couilles.
Ouais.
Ou vas-y là. Ça devient un mot vas-y là.
Ça, c'est il y a des mots tiroirs aussi.
C'est des mots valises, exactement.
Oui, valises. D'accord. Il y a aussi l'expression que vous avez utilisée qui était elle est toute refaite.
Ah oui, non, ça c'est un vrai une vraie expression que je ne connaissais pas. C'est pour décrire elle avait une copine qui prétendait être quelque chose, elle disait qu'elle était féministe, alors qu'en fait elle était amoureuse du pire garçon de la classe. Et Esther m'a dit, ah ouais, mais en fait elle est refaite. Et elle est refaite pour elle, ça signifie...
C'est pas au sens chirurgical
non,
et esthétique.
Ça signifiait, ouais. Elle dissimule la réalité sous une autre apparence.
Elle se refait une histoire.
Voilà,
en fait.
Ouais. Exactement.
Elle est refaite. Mais enfin, c'est plein de moments comme ça, à la fois tendres, drôles et introspectifs. Il y a un vrai truc, ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale, tellement ça fait du bien de lire ces cahiers d'Esther, l'histoire de mes 13 ans chez Alary Édition. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, désolé déjà pour Alexis Le Rossignol qui ce matin a découvert son très très faible niveau d'intégration dans la bande, puisque Fred Sigris l'a appelé Laurent, mais aussi dans Radio France en général, puisque ta chaise a été sabotée. De là avoir un message de moins en moins caché pour la saison prochaine. En même temps, Laurent, pas de panique, il paraît qu'en ce moment, Michel Drucker recrute. Vas-y, fonce. Désolé pour les fans de Riyad Satouf qui ont découvert ce matin un escroc. Incapable de dessiner un bus, infoutu de dessiner des gens qui mangent. Quelle arnaque, ce Satouf. Je suis pas sûr qu'on vous invitera une 120e fois l'année prochaine. Désolé, enfin, Pour Nagui, oui, quoi? Nagui, qui a découvert ce matin, à cause de notre spécialiste Capucine Dubois, que physiquement, tu n'avais jamais vécu une vraie adolescence. En même temps, deux gros testicules sur ton petit corps, tu aurais été tout déséquilibré, ça aurait fait chelou. Tu aurais même pu tomber, mon lapin.
Merci, Ariane Satouvé, bravo. Sincèrement, du fond du cœur, bravo. Et j'ai même envie de dire merci, parce que voilà, c'est salutaire, ça fait du bien, ça fait plaisir. Les Cahiers d'Esther, chez Alary Édition, et passez un bon week-end. Lundi, Jean Dujardin sera notre invité. Ouais, carrément, on se refuse rien. Riyad Satouf le vendredi, Jean Dujardin le lundi.
On a les moyens, la vérité.
Et entre les deux, il y a le dimanche.
Entre les deux, il y a le dimanche. Oui, ouais, à 17h. Mélodie Mouret, Sonia Kamet, médecin urgentiste.
Très bien. Bon week-end et bonne journée sur Inter. Les carrières de campagne, sur.